Je vais en effet vous présenter un travail sur les postures énonciatives. Alors, il se trouve que ce que je vous présente, ça n'est pas publié, mais c'était malgré tout une commande de collègues espagnols. Et donc, j'ai présenté les postures énonciatives à propos de l'interprétation des textes. Et ici, au fond, c'est un discours philosophique. J'aurais pu prendre bien d'autres corpus, j'aurais dû prendre des corpus d'interaction didactique. Il se trouve que j'ai pas mal écrit sur ces questions, donc je voulais changer un peu. Et puis, je voulais changer parce qu'au fond, c'est intéressant, comme Isabelle l'a dit, d'essayer de croiser Emmanuel, pardon. L'inconscient a déjà frappé. Comme Emmanuel l'a dit, c'est intéressant de croiser les questions d'énonciation et d'interaction, et surtout de penser à la notion d'interaction. Bien évidemment, ça existe dans les interactions, mais de se demander s'il n'y a pas une dimension interactionnelle dans les textes même. Et ce que je vais montrer, c'est que, à la fois, l'utilisation qu'on peut faire des textes en classe, elle gagne à accorder énormément d'importance à l'analyse des postures parce qu'elles sont à la charnière de phénomènes qui sont à la fois cognitifs, qui sont énonciatifs et qui sont interactionnels et qui, par là, évidemment, ont une dimension pragmatique importante qui découle, au fond, sur des problématiques qui sont celles de l'interprétation et une certaine conception aussi au sens large et tendu de l'argumentation. C'est-à-dire qu'au fond, la construction des points de vue et la construction interactionnelle des points de vue, elle oriente les interprétations et, ce faisant, elle conduit malgré tout certaines opérations de justification qui s'intègrent d'une certaine façon à une conception élargie de l'argumentation. Alors, c'est non seulement important pour l'exploitation des textes en classe, imaginons que je sois enseignant, que j'ai des étudiants ou des élèves, je crois que dégager ces postures, c'est vraiment dégager les enjeux des textes. Parce que ces enjeux, vous avez compris, sont de multiples natures. Mais d'autre part, ce que je voudrais vraiment poser d'emblée, c'est que, bien évidemment, la dimension interprétative, elle n'est pas externe au texte. Ça n'est pas un « en plus » qui vient se surajouter au texte de l'extérieur du texte. C'est que chaque locuteur, lorsqu'il écrit, lorsqu'il produit son texte, il est à la croisée de multiples discours antérieurs, qui feuillette son discours et lui-même est l'interprète de ses discours antérieurs ou de son propre discours se positionnant par rapport à ses discours antérieurs. C'est pourquoi, au fond, ce que je vais poser ce soir devant vous, ça a évidemment une portée spécifique pour s'intéresser à l'exploitation des textes philosophiques ou littéraires dans les classes, mais ça a une portée théorique plus large parce que, bien évidemment, ça engage une dialectique de l'énonciation-interprétation qui est au cœur de la dialectique de la production du texte et qui se trouve aussi dans les textes lorsque ils sont interprétés. Et j'ai évidemment une conception de... Enfin, quand je dis évidemment, immanquablement, ça ne va pas évidemment de soi, mais une conception de la lecture qui... relève de ce que Jeanne-Marie Barberis appelle l'actualisation de la lecture. La lecture, c'est vraiment un phénomène d'actualisation qui s'appuie sur les choix de mise en discours des textes et qui, de ce point de vue, demande à être interprété correctement sur la base des instructions du texte. Donc il y a une sorte de dialogue muet, mais néanmoins réel, entre le lecteur, herméneute, si l'on veut l'appeler ainsi, et puis le texte, et celui qui l'a construit. Alors, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je présenterai un peu mon cadre théorique, mais très rapidement mon cadre théorique. En tout cas, mes outils, ça c'est plus important. à travers la notion de locuteur et dénonciateur, parce que je tiens qu'il est important de distinguer entre ces instances d'énonciation. Et puis ensuite, je poserai une définition de la notion de point de vue par rapport à la notion de contenu propositionnel. Et puis ensuite, j'essaierai donc d'exemplifier mon propos à partir d'un corpus donc, de Consconville, le philosophe André Consconville, qui avait écrit en 2001 un ouvrage qui s'intitule « Le dictionnaire philosophique », sur lequel j'ai déjà écrit au moins un article dans Langage 156 en 2004. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est choisi ici de balayer trois postures énonciatives différentes, les trois postures qui existent selon moi, exercées, jouées par un seul locuteur, Consconville, et ça me permettra de montrer qu'ainsi, un locuteur, un auteur, se positionne d'une certaine façon. Et évidemment, c'est intéressant parce que la notion de posture, j'y reviendrai dans pas longtemps, elle doit se comprendre au sens linguistique du terme, mais elle a à voir, bien évidemment, avec d'autres conceptions relativement proches, et notamment la notion de position, de positionnement en sociologie, ou dans d'autres paradigmes scientifiques. Et en tout cas, ça permettra de montrer que l'auteur, il se positionne de telle ou telle façon dans son dialogue avec les grands auteurs de la philosophie. Je m'arrêterai là dans la, si vous voulez, la scénographie énonciative, mais je voudrais indiquer d'emblée que mon analyse n'est pas complète. En réalité, quand on se positionne, comme le fait Consconville, parce qu'on écrit un dictionnaire philosophique, qu'on est un philosophe particulièrement médiatique, mais quand même un philosophe universitaire, professeur, enfin maître de conférence à la Sorbonne, on a une position dans l'institution et on ne fait pas que dialoguer avec les grands auteurs de la philosophie, donc on raconte la contribution à l'histoire de la philosophie. On dialogue aussi avec ses confrères, avec ses collègues. Alors cette dimension-là, elle est sous-jacente à certains moments, elle affleure dans le texte, je la mentionnerai à quelques reprises, mais je n'entrerai pas dans cette question-là proprement parler, parce que je n'aurai pas le temps. Mais en tout cas, il faut comprendre que les outils que je vais évoquer peuvent être utiles dans cette perspective-là. Voilà. Alors, ayant dit, j'entre donc dans ma première partie, la présentation de mes outils. Et c'est l'occasion pour moi de présenter mes excuses, parce que quand on fait des petits montages, on s'expose comme ça, quand on travaille vite, à quelques incohérences, des incorrections syntaxiques. Donc vous voyez que le résumé, cette conférence présente les différentes postures énonciatives. Il, ça commence mal, c'est le cas de le dire, mais vous voyez que c'était un montage parce que je parlais d'un article et que, bon, j'ai changé conférence, mais je ne suis pas allé jusqu'à changer l'anaphore qui suivait. Excusez-moi de cette maladresse. Bien, donc, je veux rappeler donc que ma conception des postures énonciatives, elle s'appuie sur l'idée qu'il faut distinguer le locuteur de l'énonciateur. C'est une distinction qui ne va pas de soi, y compris dans notre laboratoire, et qui ne va pas de soi dans l'histoire de la linguistique, parce qu'au fond, les principaux fondateurs de la linguistique énonciative, à commencer par Bavenist, ne fait pas la distinction entre locuteur et énonciateur. D'accord ? Qu'un certain nombre de chercheurs et non des moindres, je pense par exemple à Otis Revus, ne fait pas la distinction entre locuteur et énonciateur. Donc, évidemment, c'est une distinction qui ne va pas de soi, qui ne va pas de soi d'ailleurs pour les étrangers, les anglo-saxons, speakers, etc. Mais dans le même temps, même si cette distinction n'est pas faite sur le plan des mots et sur le plan des notions, il est évident que, je n'ai pas le temps de le montrer, cette distinction, elle est récupérée à un autre niveau et d'une autre façon. D'accord ? Bon, il me semble que cette distinction que propose notamment Ducrot, Desclée, me semble à la fois très efficace et très élégante et permet de rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Alors, cela étant, voilà comment je distingue les choses. Alors, Celui dont je suis le plus proche, ce serait Ducrot, mais malgré tout, j'ai un certain nombre de différences relativement sévères avec Ducrot. Et finalement, je suis peut-être plus proche de Cuglioli par bien des aspects que de Ducrot. Mais en tout cas, c'est comme ça que je suis entré en linguistique. Donc, pour moi, le locuteur, c'est, et là la différence avec Ducrot est fondamentale, c'est l'instance de production phonique ou graphique de l'énoncé. Et c'est cela qui définit le locuteur. Et par rapport à cela, l'énonciateur, c'est, et là aussi je me distingue fortement de Ducrot, c'est l'instance de prise en charge des contenus propositionnels de l'énoncé. En tout cas, je me distingue de Ducrot 1984 par rapport à cette question-là. Alors, quand je dis cela, c'est donc que, pour moi, au fond, l'énonciateur, c'est une instance qui souvent a été glosée par d'autres en termes de sujet de conscience, en termes de sujet modal, chevaillé, etc. C'est une instance qui me semble en effet fondamentale parce que ça me semble l'instance à partir de laquelle les choix de lexicalisation, les choix de prédication sont organisés. Et dans le discours, la construction des objets du discours est opérée par rapport aux énonciateurs. Alors, quand je dis cela, il faut bien préciser qu'il faut distinguer, sous le terme de locuteur et d'énonciateur, des niveaux très différents. Il faut distinguer un locuteur premier, qui est l'instance première de production des discours, qui peut intégrer dans son discours des locuteurs seconds à l'origine d'actes de parole, etc. Et un énonciateur premier, qui est cette même instance, en syncrétisme avec le locuteur premier, qui prend en charge les discours que le locuteur commet et dont il, au fond, qui prend en charge les points de vue dont il laisse entendre que ce sont les siens. Et puis, il y a dans son discours des énonciateurs seconds. Alors, beaucoup d'énonciateurs, du fait du syncrétisme entre locuteur et énonciateur, ces énonciateurs seconds, ils sont le plus souvent en syncrétisme avec un locuteur second. Et c'est parce qu'il y a si fréquemment cette situation de syncrétisme qu'on, au fond, on arrive à penser que la distinction entre locuteur et énonciateur est superflue, puisque, au fond, c'est presque, n'est-ce pas, la même réalité, le même sujet parlant, etc., sauf que ce sont deux instances très différentes. Et j'en veux pour preuve cette idée, et là, c'est vraiment Ducrot qui a attiré l'attention des chercheurs sur ce point, et je crois que ça, on doit lui savoir gré de cette question. Alors, il n'est pas le premier, parce que d'autres l'avaient fait avant, mais il l'a fait avec énormément de force et énormément de brio. C'est que, effectivement, dans le discours, il n'y a pas simplement un locuteur énonciateur premier qui fait référence à des points de vue de locuteur énonciateur second, mais il y a aussi des points de vue qui renvoient à des énonciateurs seconds qui ne sont pas locuteurs, c'est-à-dire qui, si vous voulez, dont on exprime, puisqu'ils ne parlent pas eux-mêmes, dont l'énonciateur premier, locuteur premier, va exprimer le point de vue par empathie. Et là, c'est très intéressant parce que ces énonciateurs seconds ne sont pas locuteurs, et dans le même temps, l'énonciateur locuteur premier qui va envisager les choses du point de vue de cet énonciateur second, il est locuteur de ce point de vue sans être nécessairement l'énonciateur de ce point de vue. Il ne l'est que s'il marque son accord avec le point de vue de l'énonciateur second. Donc, il y a une situation inversée et ça, c'est capital. Alors, c'est un peu compliqué. On va prendre deux exemples qui ne sont pas sur l'exemplier, mais un que je prends souvent parce que c'est un exemple que j'adore et que c'est un exemple, c'est une façon de rendre hommage à Ducrot, que Ducrot donne en 1980, c'est le suivant, je vous invite à le noter, il est une phrase, hein. Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. Jeanne, ayant terminé ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. C'est l'incipit d'une vie. Alors, cet énoncé, il est évidemment produit par un locuteur énonciateur premier, qui est un narrateur hétérodiégétique, dans une énonciation historique, dont ben, Venise te dit qu'elle est objectivante. Et je crois qu'on peut dire que ce début de récit, en réalité, il raconte les choses du point de vue de Jeanne. Donc Jeanne est un énonciateur second, un centre de perspective, si vous voulez, un sujet de conscience, un sujet modal, peu importe comment on l'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à partir de cette instance que les objets du discours sont construits. À savoir, évidemment, c'est très saillant avec la fin de la phrase, mais la pluie ne cessait pas. On sent bien qu'il y a une opposition entre le début de la phrase au passé simple et la fin de la phrase à l'imparfait. On voit bien le distanciel énonciatif que marque l'imparfait, un marquage d'altérité énonciative. On se situe à l'intérieur du procès et on est à l'intérieur de la perception telle que Jeanne l'expérimente. Et ce que nous dit ce texte, au fond, parce que le contenu propositionnel de l'énoncé, c'est qu'il pleuvait. D'accord ? Mais le texte nous dit qu'il continue à pleuvoir, ou la pluie ne cessait pas. Donc, cette continuation, ça présuppose que Jeanne en avait déjà conscience auparavant. Le verbe « cesser » par son sémantisme même, la négation indique cette perception préalable, indique aussi une déception liée au fait que Jeanne s'aperçoit que son désir de partir est contrarié. Donc, si vous voulez, à la fois le mais argumentatif, à la fois le sémantisme du verbe, à la fois la négation, cela indique bien qu'il y a le point de vue de Jeanne, qui pourtant n'est pas exprimé dans une parole formulée par Jeanne, mais qu'on pourrait reformuler, c'est pour ça que je parle souvent de pré-réflexivité, de monologue intérieur infra-verbalisé, c'est comme si Jeanne se disait « zut, il pleut encore, je ne peux pas partir », vous voyez, et c'est ça qu'il faut comprendre de la référenciation. On va au-delà du constat objectif « il pleut ». D'accord ? Donc à la fois, c'est un texte réaliste qui indique bien qu'il pleut, et il faut comprendre du point de vue du narrateur réaliste qu'il y a bien une femme qui s'appelle Jeanne, qui veut partir, qui boucle ses malles, qui va à la fenêtre, il pleut, tout ça, on doit, si on était un réalisateur de cinéma, on doit le transcrire, mais dans le même temps, ce texte, cette narration objective, dit-on, en tout cas si on en croit les théoriciens réalistes, elle est subjective d'un certain point de vue, c'est la subjectivité de Jeanne. Et cette subjectivité n'est pas d'ailleurs que dans les fragments au deuxième plan, hein, parce que quand vous regardez l'énoncé, Jeanne ayant terminé ses malles s'approcha de la fenêtre, de la fenêtre, pas une fenêtre, c'est la première mention, c'est l'ligne typique du texte, on voit bien que, si vous voulez, on est installé d'emblée in medias res dans la psyché de Jeanne, la fenêtre, c'est celle qui est saillante pour elle. Et vous voyez, voilà un phénomène particulièrement intéressant. Alors, il est posé ici dans un texte littéraire, mais qui fait entendre cette difficulté dont il faut rendre compte, c'est-à-dire le fait qu'on construit des contenus propositionnels, qu'on les impute à des énonciateurs seconds qui ne sont pas locuteurs à proprement parler. Et ça, c'est intéressant, parce que ça pose aussi, par ailleurs, c'est une question dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais ça pose aussi la question de la prise en charge. Est-ce que Jeanne prend en charge cet énoncé? Est-ce que le narrateur prend en charge cet énoncé? Et comment? Tout ça est assez compliqué. Mais en tout cas, si vous voulez, voilà, c'est un énoncé complexe. Pourtant, il est d'une banalité affligeante. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais ça, c'est un texte littéraire. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas ce genre de choses. Alors, deuxième exemple que je vous invite à prendre, puis ensuite je rentre dans mon propos. Enfin, je suis déjà dans mon propos. Le deuxième exemple, c'est un... J'avais entendu ça un matin sur Antenne 2, juste avant que Ingrid Betancourt ne soit libérée. Et voici ce que disait Sophie Le Saint. La guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. La guérilla serait vraiment prête à libérer les otages. C'est un énoncé de banalité incroyable qui ne pose aucun problème. On écoute ça. Et le linguiste qui a l'oreille un peu dressée, dès le matin, il repère que quand même, C'est un peu bizarre, parce que la guérilla serait vraiment prête, le conditionnel plus le vraiment, il y a quelque chose, évidemment, qui pose problème, on le gère très bien, mais c'est difficile de dire dans le même énoncé A et non A si cet énoncé est pris en charge par la même instance. Alors évidemment, la journaliste Sophie Le Saint, qui est locutrice et énonciatrice première, elle prend en charge le conditionnel, hein, évidemment. Elle rapporte cette information avec un conditionnel d'altérité et de mise à distance, hein, d'altérité énonciative et de mise à distance. Mais le vraiment, qui est, au fond, la source ou l'instance de validation, comme dirait Gosselin, qui va être à l'origine d'une sorte de prise en charge, même si ce n'est pas une prise en charge effective, parce que personne ne parle ici, en dehors de Sophie Le Saint, qui, quand même, est celle qui valide le vraiment. Alors, on peut poser plusieurs hypothèses, mais de toute façon, alors on peut dire c'est une source bien informée ou autorisée, qui est en relation avec la guérilla, etc., etc. On peut envisager un parcours des sources par récursivité, mais au bout du bout, on en arrive toujours à faire cette hypothèse que c'est la guérilla qui a communiqué d'une certaine façon et qui a laissé entendre qu'elle s'engageait cette fois-ci à libérer l'otage. Les otages, puisqu'on avait libéré alors, 3 otages, si ma mémoire est bonne. Et donc, ici, je dis que la guérilla, c'est un énonciateur second qui ne dit rien, mais auquel on impute un point de vue qui est la promesse, au fond, l'engagement d'une libération prochaine des otages. Donc là encore, vous voyez, un énoncé banal de la vie quotidienne, mais cette distinction locuteur-énonciateur, elle est absolument capitale, parce que quand on fait ce genre de choses, on peut s'autoriser une grande labilité de positionnement parce que au fond on est moins contraint que quand on rapporte des paroles par le biais du discours rapporté ou enfin je préfère dire représenté parce qu'on est toujours dans la représentation et ça me semble plus pertinent d'un point de vue pragmatique que la notion de rapport grammatical si vous voulez. Au fond, ici, on est devant des points de vue qui ne sont pas des paroles, ça veut dire que ce sont des points de vue où il se surparle de points de vue méta-représentationnels. Enfin, Louis de Saussure et puis Sperberg, Wilson, etc. Je pense que c'est une idée très intéressante que cette notion méta-représentationnelle, ça veut dire que c'est une représentation de ce que peuvent penser, dire les autres, mais sans passer par le dire, et tout au fond, les précautions ou les règles déontologiques qui sont celles du locuteur énonciateur premier quand il rapporte des dires. En principe, on doit prendre un certain nombre de précautions. Là, avec l'imputation, on est beaucoup plus, si vous voulez, dans un rapport, évidemment, qu'on ne doit pas raconter n'importe quoi de n'importe qui, parce qu'on s'expose, évidemment, à donner de soi une image de mauvaise foi, de locuteur désinvolte, etc. Et c'est tout à fait navrant pour son éthos. Mais quand même, on a une latitude dans la construction de l'autre en soi qui est beaucoup plus large que si on rapporte des paroles. Donc ça me semble très important, cette manière de faire. Et donc j'en viens maintenant aux exemples que vous avez sous les yeux. Donc, vous voyez les exemples 1, 2 et 3 que je vais vous laisser lire. Et vous voyez que dans l'exemple 2, le point de vue ne correspond pas à une parole, à la différence de l'exemple 1, où on a quand même une trace à travers le terme « jugement », et de l'exemple 3, où on a une autre trace à travers le terme « dire » ou encore « truisme ». Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de partir de cette idée que le locuteur énonciateur premier, qui joue un rôle fondamental cet énonciateur premier, on ne peut pas le mettre sur le même plan que les énonciateurs seconds. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un article de Marge linguistique, j'avais dit « je propose de nommer cet énonciateur premier le principal ». Parce que ça n'est pas du tout le même énonciateur que les autres qui sont convoqués dans le discours. D'ailleurs, il me semble que quand on est en désaccord avec quelqu'un, et si les désaccords sont suffisamment robustes pour qu'on aille en justice, la justice, elle s'adresse à un énonciateur parmi la multitude d'énonciateurs qui peuplent son discours. D'accord ? Et cet énonciateur, c'est l'énonciateur premier qui lui-même est en syncrétisme avec le sujet parlant. D'une certaine façon, ça exprime le sujet de la personne. Alors, ce que ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire, c'est que donc cet énonciateur premier, il va choisir de formuler son point de vue d'une façon tout à fait significative, puisque au fond, on peut dire que chacun de ces trois énoncés, il exprime à peu près le même contenu propositionnel, à savoir homme, être, un loup pour l'homme. D'accord ? Et ce contenu propositionnel, je pense qu'il faut toujours aller, parce que c'est ce qui permet de fonder d'une certaine façon la notion de point de vue à travers une publication, il y a un contenu propositionnel. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette analyse logique des contenus propositionnels, une analyse abstraite. Parce que vous voyez bien qu'un même contenu propositionnel, se traduit par trois énoncés très différents. Et d'une certaine façon, je pourrais montrer que même si on ne prenait que le cœur du point de vue, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, si on n'avait que cet énoncé réduit au contenu propositionnel, je pense que, si vous voulez, on ne peut pas se limiter à l'analyse en termes de contenu propositionnel. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une phrase, l'homme est un loup pour l'homme. Mais dans quel contexte est-ce que je la prononce ? Est-ce que je prononce l'homme est un loup pour l'homme d'un ton d'évidence en disant « chacun sait ça, l'homme est un loup pour l'homme » ou « je te concède que l'homme est un loup pour l'homme » Vous voyez bien, selon la façon dont je peux oraliser mon énoncé, mon contenu propositionnel, ça n'est pas exactement le même point de vue. C'est la raison pour laquelle, au fond, quelle différence entre un point de vue et un contenu propositionnel ? Un point de vue, c'est un contenu propositionnel, mais on tient compte des choix de lexicalisation, on tient compte des choix de prédication, parce que ces choix de lexique, d'organisation de la prédication, de qualification, de quantification, de modalisation, d'ordre des mots, etc., ils pèsent sur la signification du contenu propositionnel et ils ne font pas que construire un objet du discours, le contenu propositionnel. Ils, dans le même temps qu'ils construisent un objet du discours, ils renseignent sur le point de vue du sujet énonciateur sur l'objet du discours. C'est un point de vue. Et donc, si vous voulez, point de vue et contenu propositionnel, c'est au fond le même segment textuel, sauf que dans un cas, c'est un segment textuel en situation, je dirais presque en interaction, parce que ce que je dis est toujours en réaction de ce qui vient d'être dit ou de ce que je pense qu'on va dire ensuite. Et c'est un énoncé, non seulement en situation, mais dont je prends en compte la matérialité discursive, donc le mode d'organisation du discours. Alors, quand on regarde cela, ici, on voit qu'au fond, le cœur du point de vue propositionnel, le point de vue de Hobbes, il est inscrit le plus souvent dans une énonciation impersonnelle, ici, et les choix, par exemple, dans l'exemple 1, d'un indéfini, sujet d'un déontique, dans l'exemple 2, d'une tournure impersonnelle, ou dans l'exemple 3, d'une infinitivation, ces choix, donc, ils sont intéressants parce qu'ils indiquent la façon dont le locuteur énonciateur premier entend, au fond, se positionner par rapport au contenu propositionnel qui est lui-même exprimé donc dans une forme, dans une énonciation désenvoyée, puisque l'homme est un loup pour l'homme et construit avec un présent générique. Et donc, je crois que, si vous voulez, ce qui est intéressant, et ça permet de comprendre que le point de vue ici, il est construit dans une situation dialogique, hétérodialogique. Il y a d'abord le point de vue d'un énonciateur, être l'homme est un loup pour l'homme, c'est un énonciateur toxique, d'accord ? Et c'est un énonciateur second. Et le locuteur énonciateur premier, il se positionne par rapport à ce contenu propositionnel. Et un contenu propositionnel qui est lui-même, j'y insiste, donné sous une forme désembrayée, parce que c'est fait pour donner une certaine autorité à ce point de vue, et le fait même que on ne peut que partager, il se vérifie constamment, dire que, etc., est un truisme, donc qui est la part contributive du locuteur énonciateur premier à la co-construction dénoncée ici, ça ne fait que renforcer cette position d'autorité qui vient elle-même se greffer sur un énonciateur doxique auquel on confère, d'une certaine façon, une autorité. Et donc, par rapport à cela, le locuteur énonciateur premier, dans les cas de dialogisme, il a la possibilité de marquer son accord, son désaccord, ou encore d'exprimer une certaine neutralité à l'égard des points de vue qu'il rapporte dans son discours. Et au fond, ici, je crois que on peut dire que l'exemple 1 exprime la co-énonciation et l'exemple 2 plutôt la sous-énonciation, tandis que l'exemple 3 exprime la surénonciation. Et dans les trois cas, co-énonciation, sous-énonciation et surénonciation, il s'explique par la façon dont le locuteur énonciateur premier construit son rapport à la vérité qui est posée dans l'énoncé doxique. Donc, je reviens en arrière, dans l'exemple 1, le locuteur énonciateur premier, il marque explicitement son accord avec le point de vue de Hobbes. Et donc, on peut dire que la vérité, elle est fondée d'une part en Hobbes et dans le locuteur énonciateur premier. Dans l'exemple 2, l'accord de l'énonciateur premier avec l'énonciateur second, il procède au fond de la vérité d'une analyse dont le locuteur premier nous dit que la pertinence ne cesse de se vérifier et de s'imposer à tous, donc y compris à l'énonciateur premier. Et de cette façon, l'énonciateur premier marque que cette vérité, c'est une vérité dont le mérite ne lui revient pas. D'une certaine façon, il y a une forme de mise à distance, et on peut de cette façon parler de sous-énonciation, c'est-à-dire que, à minima, c'est ce qu'on pourrait appeler une hypo-assertion. Enfin, ce n'est pas une assertion pleine et entière. C'est plutôt une hypo-assertion. Alors, il peut y avoir des degrés dans la sous-énonciation. Il est évident que si on avait « il se vérifie plutôt que l'homme est un loup pour l'homme », on aurait une sous-énonciation qui serait non seulement une hypo-assertion, mais qui serait en plus marquée par la distanciation à l'égard du point de vue doxique. Mais en gros, si vous voulez, ce qui est fondamental, c'est que on a cette idée d'une hypo-assertion, d'une assertion en mineur dans ce cas-là. Et puis, dans l'exemple 3, l'énonciateur premier, qui est donc surénonciateur par rapport à l'énonciateur second, c'est un énonciateur surénonciateur dans la mesure où le point de vue de Hobbes est qualifié comme truisme. Et de ce point de vue, le point de vue du locuteur énonciateur premier l'emporte sur le point de vue de l'énonciateur doxique, parce que c'est plutôt l'énonciateur premier qui est la source d'une vérité. Et cette source de la prise en charge, elle domine à la fois Hobbes et la doxa. Et je précise que cette réalité énonciative, elle ne se base pas sur le sémantisme dépréciatisme du terme truisme. Parce que on pourrait imaginer un énoncé dans lequel truisme est orienté en un sens positif, et c'est le cas de l'exemple 3A, et vous voyez que même dans l'exemple 3A, c'est locuteur énonciateur premier qui est vraiment la source de la validation du jugement de Hobbes malgré son apparence doxique et par-delà la doxa. J'insiste, malgré son apparence doxique et par-delà la doxa, ça veut dire que, au fond, la source légitimement de l'énoncé, elle est dans l'énonciateur premier et non plus dans l'énonciateur second. Donc, il me semble que, là, ce sont des exemples qui sont des exemples fabriqués, parce que si on fait des exemples à tester, c'est toujours possible, mais ensuite on est devant souvent des textes qui posent énormément de variables, alors c'est un peu gênant pour l'analyse. Ça permet donc de distinguer, au fond, trois postures énonciatives. Premièrement, donc, la co-énonciation, et là je m'aperçois que j'ai pris mes aises, donc je vais accélérer. La co-énonciation, mais vous avez ça sur l'exemplier, c'est la coproduction d'un point de vue commun et partagé. Donc une double prise en charge. Et juste donc une chose, c'est que je distingue bien ici la co-énonciation, ce sont deux énonciateurs qui prennent en charge le même énoncé. Hein, en tant que, un, l'énonciateur premier comme instance de prise en charge, et l'énonciateur second comme l'instance de validation. Hein, c'est une expression que j'emploie à Gosselin, parce que lui aussi fait, hein, dans son livre sur les modalités, la distinction que je fais entre instance de prise en charge pour le locuteur énonciateur premier et des instances de validation qui sont des énonciateurs internes à l'énoncé. Alors, il faut bien distinguer cette co-énonciation de la co-énonciation, parce qu'il y a des termes qui circulent dans le vocabulaire scientifique. Hein. Ce que disent Morel et Danon de Boileau, c'est assez proche, c'est ce dont je suis le plus proche, hein, dans l'optique pluriolienne, mais vraiment, pour eux, la co-énonciation, c'est la façon dont le locuteur anticipe sur des objections que la locuteur pourrait faire pour essayer de capter son accord par anticipation. Mais voyez, dans cette construction de la co-énonciation, il y a un locuteur qui parle. D'accord ? Et dans son discours, il y a deux co-énonciateurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir parfois deux locuteurs et deux énonciateurs. Alors ici, évidemment, il y a un locuteur dans le cas évidemment, que je prends du discours rapporté, mais parfois, étant des interactions orales, on peut bien avoir deux locuteurs et deux énonciateurs. Et ça me permet de faire la distinction aussi avec ce que dit Jeanne Rey, puisqu'elle, elle parle de co-énonciation dans son bouquin, et en réalité, les exemples qu'elle donne sont des exemples de co-locution, de co-formulation. C'est-à-dire qu'elle ne se pose pas du tout la question de savoir si les locuteurs sont d'accord, c'est-à-dire s'ils prennent en charge. Parce que, hein, y a quelqu'un qui commence un énoncé et puis l'autre le termine pour marquer qu'il a compris. Hein, mais on peut terminer un énoncé, surtout si c'est un énoncé préconstruit, si on connaît, etc. On peut le terminer sans marquer qu'on est d'accord avec l'énoncé. D'accord ? Donc, phénomène de collocution, il existe, mais ça n'est pas la même chose que la co-énonciation. Et puis, encore une fois, la surénonciation, c'est donc la coproduction d'un point de vue surplombant, c'est-à-dire d'un point de vue qui semble dire à peu près, parce que c'est souvent dans les reformulations, les reprises, si vous voulez, que l'on a ce genre de phénomène, donc qui paraît dire la même chose que ce que dit l'énonciateur second, mais en réalité, ça n'est plus tout à fait la même chose. Mais ça n'est pas autre chose non plus. Ça n'est plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a éventuellement une réorientation argumentative, ou alors, même s'il n'y a pas réorientation argumentative, je l'ai montré notamment dans un texte de 2006, l'énoncé est formulé dans un sens purement factuel, et puis le locuteur le reformule dans un sens abstrait, général, générique, c'est le même mot, mais ça n'est plus le même enjeu, évidemment, le même sens. Et la sous-énonciation, c'est donc un point de vue dominé en ce sens que le locuteur énonciateur premier, il est sous-énonciateur puisqu'il reprend soit avec réserve, soit avec distance, donc un point de vue qui vient ailleurs, auquel l'énonciateur premier confère toujours un statut prééminent. Alors, en fonction de ça, Puisque j'ai perdu beaucoup de temps, je reviendrai sur les, en conclusion sur les distinctions qu'on peut faire, si vous voulez, avec les notions de position énonciative de Cugnoli, mais peut-être me poserez-vous la question, la distinction avec les positionnements au sens sociologique du terme, ou encore les postures dans le domaine des sciences de l'éducation. Mais là, je n'ai pas le temps, j'en viens d'emblée à la question de l'interprétation. Donc, prenons tout de suite des exemples. Isabelle, il faut que je m'arrête à quelle heure ?
Emmanuel.
Et, oh, zut. Alors, oui, mais ça,
c'est tu rajoutes 10 minutes, puisque oui. Nous avons commencé à 6h10, donc tu vas jusqu'à 18h10.
Bon, alors, je vais... Allez, je vais...
Pardon, 19h10, oui, je nous enlève du temps.
Très bien. Donc, prenons, premier cas, la coénonciation. Donc, la coénonciation, vous avez un exemple, qui est l'exemple 4, que je vous laisse lire. C'est donc dans l'avant-propos du dictionnaire philosophique, l'auteur revient sur la parenté de sa démarche avec celle de Voltaire. Et donc, on a ses propres commentaires, c'est intéressant, parce qu'il redouble les formules de Voltaire ou de René Pomeau. Et donc, vous voyez qu'ici, le locuteur énonciateur premier, il ne fait pas que citer un contenu propositionnel, c'est-à-dire, au fond, écrire une somme sur les idées importantes, hein, ce qu'il reformule en disant tout ce que je dois penser, tout ce qui prend place dans l'ordre alphabétique. En réalité, il fait vraiment sien cette manière de faire l'histoire de la philosophie en adoptant une structure dictionnaire. Et vous le voyez à travers le « c'est aussi » ou encore « je répondrai volontiers ». Donc, par là, on sent que le locuteur énonciateur premier, il reprend à son compte l'acte de langage de Voltaire, avec son exigence de vérité, d'authenticité, hein, lorsqu'il dit un compte que je me rends à moi-même. Et donc, de façon inaugurale, ici, on voit que le locuteur énonciateur premier, il met en scène une communauté discursive récursive, celle des élus qui glosent entre eux, donc ça va être Comte-Sponville en accord avec Pomeau, qui lui-même est en accord avec Voltaire, et évidemment, communauté discursive dans laquelle il va installer son propre dictionnaire philosophique. Donc, ce qui n'est pas sans bénéfice, évidemment, symbolique, particulièrement gratifiant. Hein, quand on est un auteur, un universitaire, qu'on écrit un dictionnaire philosophique, alors qu'il s'écrit tant de dictionnaires philosophiques, des dictionnaires qui sont souvent des œuvres c'est un collectif qui écrit. Hein, quand on écrit seul un dictionnaire philosophique, qu'on le situe sous le patronage de Voltaire, on se donne bien évidemment certains positionnements dans le champ de la philosophie par rapport à ses confrères, et pour faire autre chose que de la philosophie universitaire. C'est une autre ambition, bien évidemment, d'autant que, pour corser le tout, je n'ai pas le temps, mais dans un autre moment de l'avant-propos, le Comte-Sponville se situe non seulement par rapport à Voltaire, mais par rapport à Alain et à ses propos. Donc vous voyez bien, ici, un positionnement qui se passe par le discours, mais qui renvoie aussi et qui construit par le discours et dans le discours un positionnement sociologique qui existe par ailleurs. Alors, ce qui est intéressant encore, c'est l'exemple 5, parce que je vais analyser cet exemple, il a le mérite d'être très court, si vous voulez. Vous voyez, dans cet exemple 5, ce qui est très caractéristique de la coénonciation, c'est qu'on a une première citation qui est en position thématique et qui sert de cadre, bien sûr, à la prédication qui est assumée par le locuteur premier, en accord avec un certain nombre de locuteurs seconds, à savoir Oedipe, Sisyphe. Et donc tout cela dans la première phrase. Et puis, nous avons ensuite des phrases, les phrases P2, P3, P4, qui sont, on peut dire, des reformulations conclusives de P1. Donc, c'est quasiment, si vous voulez, une reformulation qui se pose comme étant une reformulation non paraphrastique, mais malgré tout une reformulation de P1. Et nous avons là, au fond, des énoncés dans P2, P3, P4, des énoncés plutôt rhématiques qui sont assumés par le locuteur énonciateur premier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce point de vue du locuteur énonciateur premier, il est cautionné par la citation initiale et il est aussi cautionné par la citation finale en P5 qui valide rétrospectivement les énoncés P2, P4. Donc vous voyez un commentaire P2, P4 qui éclaire des propos qui viennent d'ailleurs et qui sont des autorités, et qui est lui-même validé par le commentaire final. On peut dire qu'il y a une sorte de tricotage des points de vue ici, mais si vous voulez, on voit bien que ce sont et les mêmes locuteurs et énonciateurs qui concourent chacun pour leur part à formuler un point de vue qui est, au fond, ici, de définir cette notion « tout est bien ». Je n'ai pas le temps, mais de toute façon, si ça vous intéresse, je vous enverrai le texte, mais l'exemple 6 procède exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a une sorte de, si vous voulez, d'exégèse très savante de Freud, à travers la notion de sublimation, qui fait parler des ouvrages différents de Freud, qui sont écrits à des temporalités très différentes et qui sont pourtant rassemblés dans un discours qui est le discours en chassant de Comte-Sponville. Et puis nous avons, y compris une finale, une reformulation. Alors, c'est une reformulation que j'ai mis en caractère gras, qui est particulièrement intéressante parce que, vous voyez, c'est une anti-métabole. Hein. Ce n'est pas le sentiment du sublime, c'est le devenir sublime du sentiment. Et cette façon de faire, en réalité, c'est une façon très éclairante par laquelle Comte-Sponville s'autorise à reformuler le véritable point de vue de Freud, quasiment mieux que Freud, mais c'est le même point de vue, c'est le point de vue de Freud, formulé d'une façon artiste, c'est la part ajoutée de Comte-Sponville, mais donc il y a là pas un changement, il n'y a pas d'infidélité par rapport à Comte-Sponville, il n'y a pas une variation, une réorientation par rapport à ce que dit Comte-Sponville, il y a une formule brillante, incontestablement, mais c'est le même point de vue, donc co-énonciation. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que dans le contexte du dictionnaire philosophique, la co-énonciation, elle indique au fond les efforts du locuteur pour restituer fidèlement une pensée déjà constituée mais qui est complexe, et la restituer en étant capable de l'orienter vers l'avenir, en étant capable de l'orienter vers des questions inédites, d'aborder des questions nouvelles. Et ces questions nouvelles, ce sont celles du scripteur énonciateur premier. Mais il pense, à partir de l'énonciateur Freud, Sisyphe, Oedipe, tout ce que vous voulez, et au fond, on a là un phénomène que je pourrais caractériser, un phénomène d'empathie cognitive. D'empathie, mais cognitive, c'est se mettre à la place de quelqu'un, parler à la place de quelqu'un, d'un point de vue purement cognitif, pas forcément relationnel, pas forcément idéologique, pas forcément axiologique, même si souvent, évidemment, on peut aller de la cognition vers des formes de connivence plus variées. Mais donc, il s'agit au fond ici d'un accord profond hein, entre une pensée et la pensée propre du locuteur énonciateur premier. En revanche, on peut avoir des phénomènes très différents. Alors, dans le peu de temps qui me reste, je prendrai l'exemple 8, parce qu'il est plus court que l'exemple 7. Donc, si vous voulez, l'exemple 8, c'est un exemple qui indique ce qu'on pourrait appeler une posture de surénonciation. Pourquoi ? Parce que l'article commence par une explicitation de la pensée de Voltaire. Et au fond, plus on avance dans le texte, plus on s'aperçoit que l'explicitation qui se présente au début comme une explicitation relativement honnête, elle prend de plus en plus de liberté à l'égard de la conception théiste de Voltaire. D'ailleurs, on voit que, à la fin, nous avons une formulation qui est tout à fait significative. Comme dit Voltaire, ce n'est pas ainsi que le dit Voltaire. Hein. Comme dit Voltaire, c'est quelque chose, au fond, qui renvoie à une façon de citer qui est relativement désinvolte, relativement suffisant. C'est non pas ainsi que le dit Voltaire, mais comme le dit le Voltaire qui joue à faire l'intéressant, etc. Et donc, on voit bien que cette façon de caractériser le dire de Voltaire, d'emblée, elle oriente la conception du dire en un sens, au fond, qui est très différent de l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, je vous disais, il y a une empathie cognitive. cognitive. Eh bien, là aussi, il y a une empathie cognitive. Mais vous voyez que cette empathie cognitive, elle ne va pas jusqu'à une empathie relationnelle, puisque nous avons, avec l'énoncé final que j'ai souligné, une ironie très forte. Et l'ironie, je crois que c'est l'exemple le meilleur qu'on peut trouver de ce que c'est qu'une surénonciation. C'est souvent formuler quelque chose ironiquement, c'est feindre, hein, comme le dit Bernard Donner, de partager un point de vue et dans le même temps faire entendre qu'on pense exactement le contraire de ce point de vue qu'on vient de jouer. Et la distanciation, c'est le jeu, le surjeu qui fait entendre qu'il faut au fond souvent soit inverser le contenu dans le cas d'une ironie antiphrastique, soit trouver une situation qui est plus pertinente que le sens initial. Donc je crois que dans cet exemple-ci, nous avons au fond une reformulation qui, plus on va, plus elle, au fond, fait entendre que le point de vue qui est celui de Voltaire est expliqué, mais il est dans le même temps ironisé. Et on reste pourtant dans de la surénonciation, c'est-à-dire un seul point de vue. C'est le point de vue de Voltaire qui reste dominant. Il est moqué, mais on ne substitue pas autre chose parce que tout simplement ça n'aurait pas de sens. On est dans un dictionnaire philosophique, alors il n'a pas à faire entendre autre chose. Mais, si vous voulez, il y a un positionnement ironique qui fait entendre que, ma foi, cette notion n'est peut-être pas la notion la plus pertinente de l'histoire de la philosophie. Donc, surénonciation. Bon, comme je n'ai pas le temps, je ne développe pas les autres exemples et puis je vous renvoie peut-être à l'article de Langage 156. Où j'ai pris vraiment et j'ai analysé très en détail des phénomènes de surénonciation, j'en viens à un autre exemple qui est cette fois-ci un exemple de sous-énonciation. Alors, on va regarder l'exemple 9, là aussi, on prend l'exemple le plus court, un exemple, donc, sur la beauté. Alors, c'est un exemple très intéressant parce que, si vous le lisez, je pense que vous allez me dire, si vous avez un peu compris ce que je voulais dire, mais bon, j'ai donné trop peu d'exemples, c'est un article qui commence par de la coénonciation. C'est vrai qu'au fond, nous avons trois phrases en coénonciation au début. Lorsque, donc, le locuteur énonciateur premier donne une première définition qui se trouve comme étayée par la définition de Souriau, et au fond, c'est comme s'il avait parlé avec Souriau. Et donc, ça correspond en gros à ce que j'ai indiqué à propos des deux premiers exemples. Mais en réalité, très vite dans le texte, la coénonciation, elle est posée comme ayant une portée très limitée, puisque le point de vue de Souriau, en tout cas dans la fin du texte, il est, en fin de compte, ravalé à une doxa. Alors ça peut être une doxa philosophique, mais c'est une doxa. Et donc, ici, on a une sous-énonciation qui est indiquée par un certain nombre de marques, qui sont des marques de distanciation. Cette distinction sans s'être imposée. Et puis en plus, on renchérit sans s'être absolument imposée. Hein? Et on nous dit, elle correspond à peu près à l'usage. Donc quelque chose qui correspond à l'usage, à peu près à l'usage, on est vraiment dans quelque chose dont on nous fait bien entendre que c'est une vérité qui existe, c'est une vérité qu'il faut prendre en compte, mais c'est une vérité qui n'est guère convaincante. Et on est en effet, non pas dans le registre ici d'une vérité que l'énonciateur prendrait en charge, avec laquelle il marquerait son accord. Non, ici, c'est une sorte d'hypo-asserction, mais là encore, on ne va pas jusqu'à un désaccord très net. Hein? Ce que l'auteur veut faire entendre ici, c'est qu'il marque au fond, qu'il prend en compte ce point de vue, parce que c'est le point de vue qui s'impose dans l'usage, faute de mieux. Il n'y a rien de mieux à proposer, mais dans le même temps, si vous voulez, la distanciation est telle que Comte-Sponville fait bien entendre qu'il n'a pas envie d'aller plus loin par rapport à, si vous voulez, la prise en charge. Donc, si j'essaie, avec ces trois exemples, je ne vais pas, hein, s'il faut que je conclue dans 5 minutes, je vais essayer de faire, si vous voulez, je ne vais pas aller au-delà de ces trois exemples. Ce que je voudrais dire, c'est que, à chaque fois, les phénomènes de posture,
de renvoyer à, au fond, un ensemble de marques qui sont très variées. Vous voyez bien que ce qui fait ces postures, ce sont des faisceaux de marques. Donc je vous renvoie à la page 4 où je résume un certain nombre de choses, mais on voit bien que, au fond, les lieux stratégiques textuels de construction des figures, des postures, pardon, ce sont, au fond, les lieux où on construit un contenu propositionnel, où on le complète, où on le reformule, où on le reprend. Et à chaque fois, ce sont les marques qui permettent de préciser si le locuteur énonciateur premier, il va prendre totalement en charge un point de vue qui vient d'ailleurs, auquel cas on est dans la co-énonciation, c'est un point de vue qui marque l'accord, c'est un point de vue partagé, qui pose la question de savoir si le locuteur énonciateur premier va feindre de dire la même chose que l'énonciateur second en réorientant son dire, et nous sommes dans la surénonciation, d'accord ? Et au contraire, si, et dans ce cas-là, dans une sorte d'hyperinsertion, tandis que dans le cadre de la sous-énonciation, on a une hypoinsertion, c'est-à-dire une reprise modérée en mineur et parfois distanciée d'un point de vue. Alors, de cette façon, si vous voulez, il est évident que ces postures, donc, elles croisent un certain nombre de mécanismes syntaxiques, de mécanismes lexicaux, de mécanismes sémantiques, et elles sont à la croisée de au moins trois domaines. Premièrement, il y a une dimension cognitive. Construire des points de vue, c'est construire des représentations sur le monde, et donc ça a à voir avec cette dimension-là. Il y a une dimension énonciative, interactionnelle, parce que dans le même temps qu'on construit des points de vue, on construit sa position par rapport à l'autre. Et donc ici, ce qu'on construit, c'est un positionnement par rapport à l'autre. Et ça, ça va plus loin que l'éthos. C'est quelque chose qui se joue dans le discours, qui est profondément labile, c'est-à-dire que le locuteur, tous les locuteurs, au fond, ils ne sont pas prisonniers d'une posture, soit par leur statut ou par leur caractère. Hein. Un enseignant, il a un statut dominant sur le plan cognitif, sur le plan institutionnel, il n'est pas condamné à la surénonciation. Un cancre n'est pas condamné à la sous-énonciation. Enfin, je veux dire, vous voyez, de même qu'un locuteur, il peut utiliser une énonciation personnelle, historique, théorique, pour proférer une vérité profonde ou une ânerie. Eh bien, les locuteurs, ils ont le choix d'une posture. Et donc, ils ne sont pas... Alors, bien sûr qu'il y a des statuts institutionnels qui se traduisent par une posture. Il y a des statuts qui sont contestés. Il y a des statuts qui sont remis en jeu. C'est intéressant de le constater. En tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est cette dimension externe à la langue, des positionnements, on peut la retrouver à l'intérieur de la langue, et les postures, elles sont là pour marquer comment, à travers la co-construction cognitive et énonciative des points de vue, dans un cadre hétéro-autodialogique, ici hétéro-dialogique, le locuteur se positionne par rapport aux autres, par rapport à l'altérité, par rapport aux autres que soi ou par rapport à ses autres. Et parce que c'est la même chose dans le cadre des autocitations. Quand on se commente, on a toujours une position soit de surplomb par rapport à ce qu'on disait, soit on entérine ce qu'on disait en co-énonciation, soit on marque de la distance à l'égard de ce qu'on disait. Donc la question des postures énonciatives, elle fait sens non seulement dans le contexte hétéro-dialogique, quand je parle des autres comme moi, mais elle fonctionne aussi en contexte autodialogique, quand je parle des autres positions que moi-même j'ai pu assumer dans le passé, dans un tel univers contrefactuel, etc., etc. Et par rapport à cela, je crois que les postures, elles sont intéressantes parce qu'elles marquent bien que au fond, le langage, y compris, vous voyez bien ici, quelque chose qui est écrit, qui n'est pas en face à face, eh bien, il relève d'une conception énonciative qui doit être, je crois, si on veut bien en penser tous les enjeux, interactionnels. Parce que je ne fais pas que construire des objets, je me construis une position par rapport aux autres, et cette position, je la construis dans le même temps que je m'appuie sur les autres pour construire les objets du discours. Et ça, ça me semble quelque chose qui est particulièrement intéressant. En tout cas, voilà, j'arrête parce que j'ai empiété de 2 minutes. J'ai pris beaucoup trop de temps au début et je suis navré. Ceux que ça intéresse, vous me laisserez votre mail. Ce texte va apparaître dans la revue Cultura Education, mais enfin, je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse. Merci.
Merci à toi.